Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, c'est tout de suite avec Belinda Bosuma.
Madame, la pluie cause la désolation, notamment au sud Kivu. Tenez, des maisons entières ont été emportées avec leurs habitants après une pluie diluvienne hier soir à Calais. La population débordée crie au secours. En Ituri, 38 personnes ont péri dans des combats en cours depuis mercredi au village d'Afoyorwot, territoire de Djougou. Ces combats opposent deux groupes armés. La société civile de Mahagi fustige l'absence des FARDC sur place. Entre-temps, ce village est vidé de ses habitants. Et puis, la présidence tournante du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba vient de passer à la République du Burundi, ce après la RDC qu'il a dirigée pendant une année. Pour en parler, nous recevons Patrick Mutombo, coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du sud Kivu. La pluie diluvienne qui s'est abattue hier soir sur le territoire de Calais a causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels incommensurables. Des maisons entières sont emportées avec leurs habitants, une conséquence des inondations, des rivières en débordement. La population du territoire de Calais affirme être débordée et crie au secours. Le point avec Emmanuel Elamenji Wakabidi.
Les principaux dégâts matériels et humains sont enregistrés à Bushushu et Nyamukubi dans le groupement de Mbinga Sud. Certaines sources parlent d'environ 80% de la population de Nyamukubi qui est emportée par la rivière. Des écoles, centres de santé et autres infrastructures sont détruits. Un habitant de Calais témoigne.
Nous sommes sur les lieux, donc c'est une catastrophe qui n'a jamais été connue vraiment. Nous venons de ramasser 53 corps, mais il y a plus de 500 maisons et leurs habitats qui sont embourbés sur le lac Nyamukubi. Il y a déjà 11 corps qui venaient d'être repêchés. Il y a plus de 200 maisons et leurs habitats portés. On est fortement débordés et on manque même comment intervenir.
L'administrateur de Calais confirme ces informations. Monsieur Thomas Bakenge sollicite une intervention rapide afin de faire face à cette catastrophe aux dégâts incommensurables.
Je suis sur les lieux. On vient de ramasser 50 morts depuis hier. La route est coupée. Donc, comme la rivière a débordé, elle a amené tout ce qu'il y avait. C'est très grave. Les dégâts très vraiment énormes, incommensurables. Donc, même maintenant, là, on amène des personnes qu'on a ramassées à côté du lac.
Les maisons sont apportées. Il n'y a rien. On est plus capable de 50 morts d'État et enfants et adultes. Il y a même un policier qui on a rassuré de le trouver dans la rue. Mais on a besoin de l'assistance dans l'urgence.
Emmanuel Elamejo Kabedi.
Du côté du Kwango, ce sont les érosions qui continuent de menacer les habitations dans le chef-lieu de la province. Au moins 21 maisons ont été emportées après les pluies qui se sont abattues en début de semaine dans la ville de Kenge. D'après le maire de cette ville, Noël Kuketuka, plus de 40 maisons devront être délocalisées pour éviter le pire. Il précise qu'il faut au moins 15 millions de dollars pour mettre en exécution le projet de lutte anti-érosive. Irène Boma.
Au total, 41 têtes d'érosion menacent de faire disparaître des maisons, des routes et d'autres infrastructures de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Noël Kuketuka, maire de cette ville qui le dit, précise qu'à ce jour, la situation est catastrophique. D'après lui, ces érosions constituent actuellement un casse-tête pour les habitants de la dite ville au regard des graves conséquences qu'elles provoquent. Par exemple, après les dernières pluies, plusieurs dégâts matériels occasionnés par ces érosions ont été enregistrés dans la ville, notamment des maisons des particuliers ont été complètement englouties, rapporte l'autorité urbaine qui en appelle à la responsabilité du gouvernement congolais.
Seulement des dégâts matériels, 21 maisons qui sont parties, d'autres ont été embourbées et il y a au moins jusque là 45 maisons qu'il faudra évacuer, délocaliser de là où ils vivent. Parce qu'il y a moindre pluie. Oui, toutes ces 45-là doivent aussi tomber. À présent, il faut au moins 15 millions de dollars pour venir à bout de toutes les érosions de la ville de Kenge.
Notez que pour l'instant, les premières interventions de l'Office de voirie et drainage, OVD, qui constitue à créer des bassins de rétention d'eau dans cette ville, sont sans succès. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Direction l'Ituri, je vous l'ai dit dans les titres, 38 personnes ont été tuées au cours des combats qui se déroulent depuis mercredi entre deux groupes armés au village d'Afoyorot dans le territoire de Maagi. Des sources concordantes rapportent que des miliciens de la Codeco venus de Djougou ont attaqué cette localité et se sont heurtés à la résistance du groupe d'autodéfense Zaïre. La société civile de Maagi fustige l'absence des FARDC pour imposer l'autorité de l'État dans cette zone qui est vidée de ses habitants. Le récit de Isaac Remoyope.
Les miliciens de la Codeco venus du territoire de Djougou se sont installés dans plusieurs villages dans les territoires de Maagi et circulent librement avec leurs armes, affirme la société civile de cette entité. Le mercredi dernier, ils ont attaqué la localité d'Afoyorot dans la chefferie des Angal. Certains jeunes du milieu organisé en groupe d'autodéfense ont riposté à l'attaque de cette milice. Les combats se poursuivent jusque ce vendredi matin, ajoutent des sources locales. Les bilans provisoires est de 38 morts, dont 25 miliciens de la Codeco, 11 des Zaïre et 3 civils parmi les habitants qui sont restés dans ces village. D'autres avaient fui depuis quelques mois les atrocités des groupes armés dans la région. La société civile locale justifie ces violences par l'absence des FARDC pour dissuader ces groupes armés. Son vice-président Emmanuel Abekane lance un appel au gouvernement pour le déploiement des militaires, mais aussi d'organiser des opérations militaires de grande envergure pour déloger ces miliciens des localités occupées pour permettre les retours des milliers de déplacés. Selon les porte-parole de l'armée en Ituri, les autorités militaires sont instruites pour traquer les miliciens qui se sont désengagés du processus de paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, le Parlement des jeunes de la commune de Moulekera dans la ville de Beni déplore l'insécurité grandissante dans cette entité. Pour ces jeunes, au moins 50 maisons ont été visitées par des bandits armés qui ont emporté à chacune de leurs incursions argent et plusieurs biens de valeur de la population. Le dernier cas en date remonte à la nuit dernière où ces malfaiteurs ont cambriolé plusieurs maisons dans cette commune. Le Parlement des jeunes souhaite rencontrer les autorités communales pour discuter de la question afin de mettre fin à cette insécurité qui inquiète ces jeunes. Nixon Muindo, l'un des jeunes parlementaires, explique au téléphone de André Kitenge.
Pour nous, étant que parlementaires de la jeunesse de la ville de Beni, nous sommes vraiment consternés par cette situation. Parce que depuis début avril, nous venons d'enregistrer au moins 50 maisons qui ont été visitées dans notre même commune. Et à ce niveau, nous, étant que parlement de jeunes, nous sommes en train de voir comment mettre le jeune autour d'une table avec les autorités. Parce que nous pensons que les autorités doivent aussi voir comment contrôler les éléments qui sont toujours envoyés dans les terrains pour faire les patrouilles dans les quartiers. Et aux jeunes aussi, il y a des jeunes qui sont en train de faire des groupes de vigilance. Nous pensons qu'il est important de renforcer ces groupes de vigilance lorsqu'il y aura une franche collaboration avec les autorités communales. Mais dès lors qu'il y aura toujours une division entre les jeunes qui font la vigilance la nuit ainsi que les policiers qui font les patrouilles, on va toujours assister à de tels problèmes. C'est ainsi que nous, Parlement des jeunes, nous exhortons les jeunes ainsi que les autorités communales de voir comment est-ce que nous allons marcher ensemble pour mettre fin à cette situation qui dégénère dans notre commune.
Cap vers Bujumbura au Burundi, les ministres des Affaires étrangères et différents chefs des délégations ainsi que leurs experts du comité d'appui technique ont clôturé hier dans la soirée les discussions. Cette session ministérielle est une réunion préparatoire du 11e sommet de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui est prévu de se tenir demain samedi à Bujumbura. Sur place, retrouvons Fiston Ngoma Mayabala.
C'est dans une ambiance cordiale et bon enfant que le ministre des Affaires étrangères de la République du Burundi, l'ambassadeur Albert Shingiro, a clôturé la réunion des ministres devant les partenaires régionaux et internationaux de la mise en œuvre du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Mon collègue et frère, son excellence Monsieur Antipas Mboussa Nyamwisi, ministre d'État de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, permettez-moi de vous adresser mes vifs remerciements pour les efforts remarquables de votre gouvernement mené au cours du mandat de la RDC à la présidence en exercice du mécanisme régional de suivi depuis février 2022. Ces efforts ont notamment permis d'enregistrer des progrès encourageants, suffisamment mis en évidence au cours de nos travaux ce jour. Je souhaite réitérer mes profonds remerciements à tous mes collègues ministres et leurs délégations respectives pour vos contributions riches et constructives tout au long de nos travaux.
À la clôture de cette session ministérielle, la proposition de la délégation tanzanienne a été adoptée selon laquelle tous les communiqués finaux sanctionnant les travaux de pays membres soient désormais traduits en Kiswahili, reconnu déjà comme langue officielle de l'Union africaine au même titre que le français et l'anglais. Depuis Bujumbura, Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'arrivée hier à Lubumbashi d'une délégation constituée de plusieurs membres du gouvernement en provenance de l'Afrique australe. Cette délégation est allée chercher les voies et moyens pour approvisionner notamment le Haut-Katanga en farine de maïs, qui est l'aliment de base dans cette partie du pays. D'amples détails avec le chef de la délégation, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, lors de sa descente d'avion. Vital Kamere est au micro de nos confrères de la presse du gouvernorat du Haut-Katanga.
La mission la plus importante, c'est celle qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants, parce que nous estimons que la diversité dans la production, la diversification de la production, est le secret pour résoudre le problème, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. La Zambie n'a pas beaucoup de terres plus que le Katanga, mais c'est un paradoxe que nous allions chercher de farine en Zambie. Donc nous allons étudier les causes qui font que les producteurs de Katanga ne produisent pas autant qu'il faut. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Nous pensons que du côté de l'État, nous avons aussi des efforts à faire, des mesures d'allègement, par exemple. Mais la mission s'est bien passée de l'autre côté. Mais la mission la plus importante, c'est ici où nous allons parler avec les Katangais, les Congolais, pour résoudre nos problèmes congolais.
Dans l'actualité aussi, cette grogne sociale à l'EPST et l'enseignement supérieur et universitaire, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé instruit en urgence les ministres du Budget et des Finances en compagnie de ceux de l'EPST et de l'ESU pour des solutions idoines aux revendications des enseignants et des professeurs d'université. C'était hier lors d'une réunion ayant pour objectif de décanter cette grogne. À en croire le ministre de l'EPST et son collègue de l'ESU qui se sont confiés à la presse à tour de rôle, le chef du gouvernement a donné des instructions clair pour que tout soit mis en œuvre dans le seul but de rencontrer les préoccupations des enseignants et des professeurs. Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dans cet extrait proposé par Billy Van Lutumba.
Nous venons donc de faire un tour du réseau du Premier ministre et il a été décidé qu'un cadre de concertation permanent urgent dès demain autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques d'INACOP, inspection, ainsi que le secrétariat général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paye régulière de tout ce qui a été convenu dans la mesure du possible.
Et pour ce qui est des professeurs d'université, le ministère des Finances s'active, d'après Mouindo Nzangi de l'enseignement supérieur et universitaire, pour décaisser des fonds pour le mois d'avril. L'actualité, c'est aussi le lancement de la campagne Zéro Antivaleur pendant la période d'examen d'État. Examen d'État édition 2023, campagne lancée jeudi par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans la province éducationnelle de Lukunga, ici à Kinshasa. La vice-ministre Aminata Namasia, qui a présidé cette cérémonie, a invité les différents partenaires qui prennent part à ces examens à s'impliquer afin de mettre un terme à ces antivaleurs. Paul Matendo Mayamba, reportage.
C'est une campagne lancée en présence des élèves et des autorités du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Aminata Namasia, vice-ministre, promet que tous ceux qui s'écartent de ces instructions seront sanctionnés.
Nous invitons les différents acteurs qui prennent part à ces différentes épreuves d'évaluation certificative, c'est-à-dire le comité provinciaux et nationaux, de s'imprégner scrupuleusement des directives et instructions réglementaires, ainsi de sanctionner sévèrement les personnes qui s'écartent de ces dispositions des lignes contre les antivaleurs.
Pour sa part, le directeur provincial de l'EPST Lukunga, c'est tout le système de fraude qui doit être démantelé. Jean-Pierre Yoy.
Nous avons voulu combattre à travers cette campagne de sensibilisation en amont, donc les systèmes de fraude, corruption, labo, suivi, maquis et puis points sexuellement transmissibles.
Les épreuves préliminaires commencent déjà la semaine prochaine, ont indiqué les responsables de l'EPST.
Actualité internationale. Nous sommes d'abord au Burkina Faso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé jeudi à éviter des conclusions hâtives, accusant l'armée d'être responsable du massacre de Karma dans le nord du pays. En effet, le 20 avril, 136 personnes, dont 50 femmes et 21 enfants, ont été tuées à Karma, selon le bilan officiel. Des rescapés et des témoins ont affirmé que le massacre a été commis par des personnes arborant des tenues de forces armées du Burkina Faso. Après l'Éthiopie, le chancelier allemand poursuit sa tournée en Afrique de l'Est avec une visite au Kenya, accueilli par le président William Ruto. Il espère, lors de cette deuxième étape, établir des partenariats avec le pays dans le domaine des énergies propres. Le gouvernement allemand ayant été contraint de se passer de ses importations d'énergie russe à la suite de la guerre en Ukraine. De son côté, le Kenya, qui couvre 90% de ses besoins en électricité par des énergies renouvelables, est le pionnier en la matière.
L'invité.
La présidence tournante du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba vient de passer à la République du Burundi après la République du Congo et l'Ouganda. La RDC vient de diriger pendant une année cette institution régionale qui a vu le jour il y a de cela 10 ans. Quels sont les enjeux de l'heure pour la RDC dans ses assises de Bujumbura? Patrick Mutombo est coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, une structure qui émane de la présidence de la RDC et répond aux questions de Fiston Ngoma.
Patrick Mutombo, bonjour.
Bonjour.
Nous vous retrouvons à Bujumbura, membre de la délégation congolaise. Quels sont les enjeux de la RDC dans ses assises de Bujumbura sur le plan paix, sécurité et coopération?
C'est une réunion statutaire qui rassemble les chefs d'État des pays signataires de l'accord cadre pour passer en revue les récents développements dans la région des Grands Lacs. Et la particularité, c'est que jusque-là, c'était le président de la République démocratique du Congo, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait assuré la présidence tournante du mécanisme régional de suivi. Et nous sommes ici à Bujumbura pour qu'il puisse passer le relais à son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye. La République démocratique du Congo, conduite par le ministre de l'Intégration régionale, est venue dans cette réunion pour passer le message de la RDC, d'abord au sujet de ce que la RDC a dû fournir comme effort pour honorer ses engagements dans cet accord cadre, et des deux, pour faire écho de la revitalisation de cet accord. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions voir pourquoi les autres États ne l'appliquent pas de bonne foi. Et puis, nous sommes partants pour que cette revitalisation se fasse avec une évaluation préalable. L'accord cadre a été signé depuis le 24 février 2013, donc que nous sachions 10 ans après comment est-ce que nous avons marché. Et pourquoi 10 ans après, il y a toujours la récurrence de la belligérance régionale. Et puis, comment comprendre, pendant que la République démocratique du Congo assurait la présidence tournante du mécanisme régional de suivi, et c'est ce moment-là que le Rwanda, qui est un pays membre signataire de cet accord par son président, agresse le président du mécanisme régional de suivi, qui est la République démocratique du Congo, violant, énervant l'engagement régional numéro 3 qui interdit au pays de soutenir des groupes armés pour déstabiliser le pays voisin. Nous sommes venus remettre la pendule à l'heure et ça a été fait avec brio parce que nous avons passé le message de la République démocratique du Congo dans cette réunion. Nous avons commencé d'abord avec la réunion des experts au niveau du comité d'appui technique. Nous sommes aujourd'hui dans la réunion ministérielle qui prépare les documents pour le sommet des chefs d'État qui aura lieu le 6 mai.
Est-ce que la RDC peut en profiter pour peser de tout son poids afin que les groupes armés étrangers puissent être rapatriés?
Effectivement, nous avons parlé du DDR régional. Et ce DDR régional s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du groupe de contact et de coordination, dont la cellule opérationnelle est basée à Goma, chez nous, dans le Nord Kivu. Ce groupe de contact et de coordination est une émanation de la décision des chefs d'État qui s'étaient réunis déjà à Kampala lors de la 9e réunion du mécanisme régional de suivi le 8 octobre 2018. Et donc, depuis lors, la République démocratique du Congo, Kinshasa, donc, a abrité la première réunion des patrons des services de sécurité et des renseignements de 5 pays, à savoir le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et nous, la République démocratique du Congo. Donc, les 5 pays concernés par la zone de conflit ont délégué chacun des patrons des services de renseignements militaires et civils pour réfléchir sur
un plan
d'opérationnalisation du groupe de contact et de coordination. Ça a été fait, ça a évolué et la République démocratique du Congo a donné son territoire national pour abriter cette cellule opérationnelle parce que c'est elle qui est la première concernée. Et au moment où je vous parle, nous avons commencé à entrevoir très prochainement le rapatriement de certains raids de Tabara Burundi qui vont accepter de rentrer chez eux et de déposer des armes. Nous nous sommes engagés au cours de cette réunion pour accélérer ce processus. Les FDLR rwandais, le Rwanda devra aussi tendre la main à ces FDLR pour que ceux-ci puissent rentrer dans leur pays. Et nous n'en sommes pas à la première expérience. Ça va faire, moi, personnellement, 20 ans que j'ai rapatrié les FDLR. Je ne pouvais pas imaginer qu'après avoir rapatrié le tout premier FDLR en 2000, que 23 ans après, j'en serais, moi, personnellement, à parler encore des FDLR. Et les FDLR qui avaient 30 ans en 94, faites les calculs si c'est encore les combattants qui peuvent aller inquiéter le Rwanda. Donc, cette histoire-là des FDLR, comme l'avait dit le président de la République, tu sais qui dit Chilombo, du haut de la tribune des Nations Unies, ce n'est qu'un prétexte fallacieux.
Patrick Mutombo, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, Radio Okapi.
Le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre répondait aux questions de Fiston Ngoma Mayabala. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Piro Elamenji, supervision d'Alain Rumushinj, Bob Landou à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.